Jésus est la source d'eau vive. Jésus est la source d'eau vive, elle ne tarit jamais. Elle est pour nous, et pourtant combien de fois est-ce qu'on s'en prive? Le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, et on aspire tellement à ces bénédictions, on aspire tellement à cette eau vive. Mais tout est là, mais on s'en prive. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Voilà, ça annonce tout de suite la couleur. Il y a un problème. Sur quoi reposent vos sécurités? Sur quoi repose votre assurance? Dans les choses de la vie courante, dans les choses de la vie de tous les jours? Sur quoi ce sentiment de sécurité? Ce sentiment, c'est ce qui nous met à l'aise. Je sais que je vais manger à midi. Midi et demi, une heure aujourd'hui. Je sais que je vais manger ce soir. Je sais que je vais manger demain matin. Je sais que je peux m'engager dans ce projet parce que je suis visionnaire, parce que je suis structurée, organisée, que j'ai une bonne équipe avec moi. Je sais que je peux faire aller facile 30, 40, 50 kilomètres à, je devrais dire course à pied, mais à ski de fond sans avoir de courbature le lendemain. Je sais pas, JP, combien? Peut-être pas 30, 40. Allez, je sais que je peux faire 20 kilomètres de ski de fond et ne pas avoir de courbature le lendemain. Je sais que je peux répéter mon vocalement une demi-heure avant le travail écrit parce que j'ai une bonne mémoire. Honnêtement, dans les choses de la vie de tous les jours, sur quoi repose votre sécurité, votre appui, votre assurance? Le roi David était un homme puissant, un homme intelligent, un homme aimé de son peuple. Et la faveur de Dieu était sur lui. Et s'il a été oint pour être roi, c'est parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, vous le trouvez en 1 Samuel 13, 14. Pourtant, à un moment donné, ou certainement plusieurs, mais à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation où sa fragilité humaine lui a montré combien tout vient de Dieu et que lui ne peut rien faire. Sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, même dans les petites choses, même dans les petits détails de nos vies. Sans Dieu, nous ne pouvons pas respirer, ça commence par là. Mais il n'y a pas juste le corps physique. L'intelligence, elle vient de qui?
De Dieu.
La mémoire, elle vient de qui? Alors, je vous propose d'aller, aujourd'hui, n'est pas coutume, dans un psaume. Un psaume qui va nous parler d'un état de détresse dans lequel David s'est plongé. Peut-être qu'il était un petit peu responsable. Le psaume 30, il commence par ce verset, psaume 30, verset 1, psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Et en fait, on ne sait pas de quelle maison il s'agit. Est-ce que c'est la maison de David? Est-ce que c'est le lieu du futur temple, puisque le temple n'est pas encore construit, c'est pas la dédicace du temple? On ne sait pas. Et ce qu'il faut savoir pour le livre des psaumes, c'est que ce livre donne très très peu d'éléments historiques, très peu de chronologie, pratiquement rien, parce que c'est pas le but. Le but, c'est un livre de recueil de poèmes, recueil de chants, recueil de cantiques. Et c'est un recueil qui exprime la relation de l'être humain avec Dieu. Si vous lisez les psaumes, vous les connaissez ces psaumes. On voit que les psalmistes y passent, mais par tous les états d'âme possibles. Il y a de la joie, de la réjouissance, il y a de la colère, il y a de la dépression, il y a tout ce qu'on veut, il y a de l'impatience, il y a de la patience, il y a tout ce qu'on veut dans les psaumes. C'est un livre, c'est pas pour rien qu'on prie les psaumes. Prier la parole, c'est important, mais on peut pas forcément prier tous les passages. Mais prier les psaumes, c'est tellement important parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et elle nous inspire, elle nous donne des trames de prière. Et elles viennent parler à notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. et de notre relation avec Dieu. Pour nos circonstances, quand on ne sait pas comment prier, allons dans les psaumes, utilisons les mots qui sont exprimés là et actualisons-les à notre situation. Allons voir ce psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Une explosion de reconnaissance et de louange. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un mouvement dans ce psaume? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un mouvement vertical de descente et de remontée, de descente et de remontée? Lisez-le une fois à la maison, puis regardez, regardez tout ça. « Je t'exalte, ô Éternel, verset 2, car tu m'as relevé. » À un moment donné, David était à terre. Mouvement vers le bas. Et le Seigneur l'a relevé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pour David, mais il avait besoin d'être relevé. Il était à terre. Et même pire, David, il était au fond du trou. Et ça nous arrive aussi des fois d'être au fond du trou. Parfois, c'est vraiment le creux. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers temps. Il y a trois, quatre jours, il y a un enfant de 10 ans en Inde qui est tombé dans un puits dans l'arrière-cour de chez ses parents. Il a fallu 5 jours pour ressortir cet enfant vivant de ce puits. Il a fallu 5 jours, des pelles mécaniques. Il a fallu, ensuite il y a eu les ambulances, etc. Mais il a fallu des stratégies géologiques ou je ne sais quoi, faire des tunnels, j'ai pas tout compris. Mais il a fallu des moyens, mais exceptionnels, pour aller retrouver cet enfant, pour pouvoir le relever. Eh bien, David, c'est comme s'il était au fond d'un puits. David, il était dans le trou. Ce terme qu'il utilise pour dire « Seigneur, Éternel, tu m'as relevé », en hébreu, il est synonyme de puiser. C'est comme si Dieu était allé puiser David tout au fond de son trou, tout au fond de sa fosse, pour le remettre sur ses pieds. David, il était vraiment pas bien. Et même, il était proche de la mort. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors si vous avez une traduction plus récente que la mienne, comme Second 21 par exemple, certainement que vous avez le mot tombe, parce qu'ils ont déjà traduit avec notre langage actuel. Cette fosse, c'est la tombe, c'est pas juste un trou, c'est pas juste un puits. C'est une tombe, c'est un puits qui peut devenir une tombe. Quand on est dans une tombe, on ne vit plus. David, il était dans une situation absolument désespérée. Et il dit au Seigneur, « Tu m'as fait remonter, tu m'as redonné la vie. » Alors bien sûr, c'est un langage figuré. David n'est pas mort physiquement, il ne parle pas d'une résurrection. C'est plutôt au niveau de son âme. Il a vécu une vraie descente au niveau de son âme et Dieu l'a restauré. Sur quoi se fondent nos sécurités? sur les pelles mécaniques, sur les soins médicaux. C'est vrai que des fois, ça aide. Je suis assez bien placée pour en parler. Mais ça vient d'où? Qui c'est qui a donné l'intelligence des médecins, des infirmières, de la technologie, etc.? Mais sur quoi repose notre sécurité? Quand j'organise ma journée, quand j'organise ma vie, sur quoi se fonde ma sécurité? Je sais que la technologie va m'aider, je sais que les moyens mécaniques vont m'aider, je sais que les soins médicaux vont m'aider, je sais que les professionnels vont m'aider, je sais que mes amis vont m'aider, je sais que l'Église va m'aider. David ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Pourtant, il avait des amis. Pourtant, il était aimé. Mais il ne pouvait pas s'en sortir avec leur aide. David, il était tout seul. David, il était roi. Et s'il était roi, c'est qu'il était tout seul à avoir ses responsabilités. Et il ne pouvait pas les partager avec quelqu'un. Un bout, mais pas tout. Personne ne pouvait se mettre à sa place. Personne ne pouvait éprouver les mêmes sentiments que lui dans sa situation. Quand on est dans le trou, même si on a des amis, même si on a des gens pour nous aider, même si on a la technologie, une intelligence, une mémoire, des stratégies, quoi que ce soit comme schéma sur lesquels on s'appuie, il y a quelque chose qui fait que nous sommes seuls et que personne ne peut éprouver ça à notre place et que personne ne peut intervenir sur cette chose-là, sur les sentiments qui se passent à l'intérieur. Alors c'est vrai que David, il a eu le bon réflexe. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. David, il s'est adressé à Dieu. C'est à lui qu'il allait puiser son secours. Seulement, pas sûr qu'il ait appelé le Seigneur tout de suite. Il y a eu comme une espèce de processus. Au départ, au verset 6, il dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » D'abord, David, il pense à la colère de Dieu. Il dit « Mais en fait, ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu est en colère. Et s'il est en colère, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. » Alors, est-ce que Dieu se met en colère contre nous? Je ne crois pas que c'est ce que ce psaume est en train de dire. Je ne crois pas qu'on est vers un Dieu correcteur. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose en David qui a commencé à bouger et il s'est dit, mais peut-être bien que je me suis un peu mis tout seul dans ma situation. Peut-être bien qu'il y a quelque chose. Et il commence à faire son processus de se dire, mais sur quoi je me fonde? À qui j'attribue tout ce que j'ai? À qui est-ce que j'attribue ma puissance de roi? Et regardez, il commence à se confesser. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. David savait que c'est le Seigneur qui avait affermi sa royauté. David, c'est l'adorateur par excellence. Combien de psaumes est-ce qu'il a écrit? C'est celui qui était tellement proche de Dieu. Il avait cette conscience que tout ce qu'il avait reçu, toutes ses qualifications, ça venait de Dieu. Seigneur, tu avais affermi ma montagne, mais je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Compétence, capacité, don, intelligence, tout à coup David, même qu'il savait que ça venait de Dieu, il s'est attribué ces choses. Il se les est attribuées. Quelque part, il ne dépendait plus de Dieu. Quelque part, c'est comme si sa royauté lui était montée à la tête. Il faut faire attention. Dans le ministère, ça peut nous monter à la tête. Et on peut commencer à avoir un certain succès, mais en fait, Dieu est de plus en plus éloigné. Parce que c'est pas ça le focus. Le focus, c'est Dieu, c'est de me dire, mais tout ce que j'ai me vient de Dieu. Alors comment je fais fructifier ce que Dieu m'a donné? Et quand je suis en difficulté, comment est-ce que je fais pour revenir à Dieu? Je ne sais pas de quelle situation David parle dans ce passage, quand il dit qu'il était au fond du trou, que c'était tellement terrible et qu'il s'est appuyé sur sa royauté, que sa montagne était affermie. Mais à un moment donné de son règne, sûrement que vous vous souvenez de cette histoire, il était puissant, tout allait bien, et il a dit à son bras droit, Joab, il lui a dit, « Pars dans les contrées, va faire le dénombrement de mon royaume. » Du style, « Allons voir combien je suis puissant. » Et qu'est-ce que Joab a fait? Joab, il a dit, « Non, non, mon Seigneur. » Et David a dit, « Si, vas-y. » Et Joab a dit, « Mais non. » Et David a dit, « Si, vas-y. » Et David, c'est le roi. Et Joab, à contre-cœur, il a dû s'exécuter. Et il est allé faire ce dénombrement. Mais ça n'a pas tardé, le Seigneur n'était pas d'accord avec ça. Et David le savait. C'était complètement contre l'éthique de Dieu d'aller voir, mais quelle est mon envergure, quelle est ma puissance sur tous ces sujets, sur toutes ces personnes. C'était complètement contraire à l'éthique de Dieu. C'est exactement pareil avec Adam et Ève. C'est toujours le même truc. Ça nous ramène toujours à Genèse 3. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils avaient tout. Leur montagne aussi, elle était affermie. Ils étaient dans un jardin, mais luxuriant, mais ils avaient plus que l'abondance, plus qu'assez, plus que trop, plus que, et tout était bon, succulent, beau à voir, tout était merveilleux. Le climat, il était, ni trop chaud, ni trop froid, ils pouvaient marcher à pieds nus, ça faisait pas mal aux pieds, il n'y avait pas de moustiques, et il y avait des pierres précieuses, et il y avait des bons parfums, il y avait des fruits, il y avait tout ce qu'on voulait. Non. Ils ont voulu s'affranchir de Dieu, devenir autonomes, devenir comme Dieu. C'est le même sentiment. Et dans nos petites choses, la vie de tous les jours, parfois on croit qu'on est Dieu. Comment ça se manifeste? On ne se rend pas du tout compte, c'est complètement inconscient. Mais on veut s'en sortir par nos propres forces. Et voilà, c'est tout simple. On veut s'en sortir par nos propres forces. Mais nos forces, elles viennent d'où? Elles viennent de qui? Ça peut vraiment se manifester de plein de choses. C'est une sorte de manque de confiance en Dieu parfois. C'est de l'orgueil parfois. C'est simplement qu'on se rend simplement pas compte. On est dans un processus. On est en train de pédaler, puis on se rend pas compte. Ça peut être plein de choses. Alors c'est bon des fois de se poser la question, mais j'en suis où? Dans les choses avec lesquelles je bataille. J'en suis où? Paul, il a écrit aux Corinthiens et il les a mis en garde contre l'orgueil. Il a dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, tout ce que tu as, tu l'as reçu, ça ne vient pas de toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour David. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Pourquoi est-ce que David fait comme si il n'avait pas reçu ces choses de Dieu, mais comme si c'était ses propres compétences, sa propre puissance, ses propres facultés? Est-ce qu'on est conscient que tout ce qu'on a nous vient de Dieu? La prétention, ça nous colle tellement à la peau. Vers qui est-ce que je me tourne quand je suis dans la fosse? Vers qui est-ce que je me tourne quand je suis à terre? Comment est-ce que je fais pour me dire, mais Seigneur, reprends les rênes. J'ai tellement voulu conduire ma vie, mais là je suis fatiguée. Vous savez ce que c'est de tenir les rênes quand vous conduisez un char qui va à toute allure? Mais au bout d'un moment, on s'épuise. Seigneur, moi je les donne les rênes. Pour David, il s'est dit que c'était la colère de Dieu qui était contre lui, parce qu'il a dit, Éternel, tu caches à ta face, et je fus troublé. À un moment donné, c'est comme si Dieu a retiré sa faveur de David. C'est comme si tout à coup, Dieu s'est fait silencieux. Dieu s'est un petit peu éloigné. Bien sûr qu'il veillait toujours sur son enfant, il le fait toujours avec nous. Mais c'est comme si Dieu a permis à David qu'il ressente qu'est-ce que ça fait d'être sans Dieu, pour que David revienne vraiment à lui. Tout à coup, c'est devenu vraiment trop dur pour David. Alors qu'est-ce que David fait? Il crie à l'Éternel. Il a imploré, verset 10, bien sûr que David revient à l'Éternel. « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi de la louange? Raconte-t-elle ta fidélité ?» David, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est en train de se repentir? Moi, je dirais qu'il est en train de prendre le virage. Mais j'ai juste prendre le virage, il a encore pas tourné. Pourquoi? Il est en train de marchander. David, c'est un adorateur, selon le cœur de Dieu, puis il est en train d'utiliser ses arguments, encore avec sa propre force, encore avec ce qu'il a reçu. Mais Seigneur, tu sais que je suis un adorateur, et moi je sais que tu aimes l'adoration, alors sors-moi de là, sinon il n'y aura plus personne pour te louer. Donc sors-moi. Il est en train de marchander, il est en train de dire, mais tu sais Seigneur, puis tu m'as appelé à faire ça, donc c'est normal quoi. Mais non, il n'y a rien qui est normal, tout est grâce. David, il commence son processus. Il commence à argumenter. Et c'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas tout à fait faux. À un moment donné, Ézéchias, c'était après David, le roi Ézéchias. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 38. Il y en a même qui se disent, mais est-ce que c'est pas Ézéchias qui aurait plutôt écrit ce psaume? Ézéchias, il a été malade à la mort. Il y a Ésaïe qui va lui dire, ta maladie, c'est pour la mort. Ézéchias, il se tourne vers Dieu, il pleure, il dépose son cœur au Seigneur, il invoque le Seigneur, et Ésaïe repart, le Seigneur repêche Ésaïe, retourne vers Ézéchias. J'ai entendu son cœur, dis-lui que j'y donne encore 15 ans. Et Ézéchias est tellement reconnaissant qu'il loue le Seigneur et qu'il compose un cantique. Ésaïe 38. Et au bout d'un moment, il dit, mais ce ne sont pas les morts qui te loue, ce ne sont pas ceux qui sont dans la fosse qui te glorifient. C'est pas quand on est mort qu'on loue le Seigneur, c'est quand on est vivant. Et David, il joue un peu là-dessus. Il est en train de dire, mais il faut que tu me laisses en vie parce que sinon je vais pas te louer. Marchandage. Avec quelque chose de légitime. Avec quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Alors, est-ce que Dieu s'est laissé toucher par cette argumentation? Est-ce que ça a touché sa corde sensible? Pas sûr. Moi, je crois que le silence de Dieu, il a duré encore un petit moment. Parce que, au bout d'un moment, enfin, David lâche prise. Cette fois, il lâche. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Ça, c'est une profonde repentance. C'est pas forcément qu'il est question d'un péché. C'est simplement revenir complètement à Dieu. Lâcher prise, puis dire, mais j'arrête. J'arrête de tout faire moi. Je te laisse faire ce que toi tu peux faire et la part que je ne peux pas. David dit, écoute Éternel. Encore ce mouvement. Écoute. Il lève son regard. Il élève sa voix vers Dieu parce qu'il sait que le secours ne peut venir que d'en haut. Écoute pour que Dieu descende à son niveau. Aie pitié de moi. Il est en train de dire, mais vois ma misère. Vois, en fait, je suis fragile. David reconnaît sa fragilité, sa limitation humaine. Il reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Secours-moi. Autrement dit, toi seul peux le faire. Toi seul peux me secourir. Toi seul, tu sais ce qui se passe dans mes entrailles. Qu'est-ce qui s'est passé quand David a fait ce dénombrement et que c'était faux? Dieu a appelé un prophète qui lui a dit, David, c'était pas juste ce dénombrement, c'était contre l'Éternel. Tu peux choisir entre 3 sanctions. Et il a choisi la sanction qui venait de l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé une peste. Et cette peste, ça a fait 70 000 morts. Il y avait de quoi à ce que David soit au fond du trou. Porter une responsabilité pareille. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Il était seul à ressentir ce qu'il ressentait. Alors peut-être aussi qu'il était au fond du trou parce qu'il était atteint par la peste, puis qu'il était au bord de la mort, c'est possible aussi. Peut-être que c'est notre circonstance. Mais pour nos vies, assez rares sont les personnes qui sont responsables de 70 000 morts. Malheureusement, il y en a. Voilà. On va pas aller plus loin. Mais quand on fait quelque chose qui est contraire à Dieu, on sent des choses dans notre cœur. On sent des choses, on se sent pas bien. C'est notre conscience qui nous accuse. Ou alors, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle notre péché puis qui nous dit « Mais remets ça au Seigneur. » Parce que lui, il attend juste que tu le lui remettes pour pouvoir te pardonner, pour pouvoir te laver, pour pouvoir te restaurer, pour pouvoir te relever, pour pouvoir venir te puiser. Mais pour te puiser, il faut que tu t'abandonnes. Abandonne tes fausses sécurités, remets-les au Seigneur. L'Éternel a complètement relevé David. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Dans les nouvelles versions, il y a marqué, tu as enlevé mon habit de deuil. Mais oui, parce qu'à l'époque de David, on s'habillait avec des sacs, on se mettait de la cendre dessus quand on était en affliction, quand on était dans une situation de deuil, quand on voulait s'humilier ou qu'on était humilié. Et là, il dit, tu as délié mon sac. Autrement dit, ce sac à patates tout déchiré que je porte sur moi, tu l'as enlevé et tu m'as ceint de joie. Ça fait penser à Ésaïe 61, la fin du chapitre, pour une fois, pas le début, qu'on connaît mieux. Ésaïe 61, le verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » David, qui était habillé de sacs d'habits de deuil, a été revêtu. Il a été ceint de joie et il a pu revêtir à nouveau son vêtement de louange, d'adoration, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Nous avons tous besoin de sécurité, nous avons tous besoin d'assurance et on peut pas faire fi de notre intelligence, fi de notre mémoire et de nos capacités, sinon ça va pas. Bien sûr qu'on en a besoin pour évoluer dans la vie de tous les jours. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est un verset qui revient semaine après semaine après semaine. Je sais pas si vous avez remarqué. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce verset, ce petit bout de verset, c'est dans Jean 15, verset 5. C'est dans l'histoire du cep et des sarments. Jean 15 ou Jean 5, je les mélange toujours. Mais sinon, vous saurez que j'ai mélangé. Je ne sais plus où c'est pas grave. Jean 15, verset 5. C'est le cep et les sarments. Et c'est dans ce passage que Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment, c'est la petite branche qui est implantée dans le tronc de la vigne. Eh bien, si tu coupes cette petite branche, sa sève, le peu de sève qu'elle a, va sécher. Et la branche va sécher. Si tu veux vivre dans ta vie de tous les jours, dans les moindres détails de ta vie de tous les jours, tu dois être attaché au cep pour que la sève coule. Mais même dans les choses qui te paraissent insignifiantes, même dans les choses que tu n'oses même pas demander au Seigneur, tellement ça te paraît... Il y a des grandes choses, il y en a des petites. Aller faire le dénombrement pour David, bien sûr qu'il aurait dû demander au Seigneur est-ce que c'est juste ou pas, quand on voit les conséquences. Si tu as un poste à responsabilité quelque part, c'est évident que tu dois demander au Seigneur. Et des fois, on oublie quand même. Mais c'est plus difficile de se dire, mais même dans les petites choses. Par exemple, quand le rythme à l'école a commencé à être vraiment, vraiment lourd pour moi, eh ben j'ai commencé à plus trop faire de sabbat. Mon sabbat, c'était le dimanche matin ici, et puis l'après-midi, je prenais le temps de bien manger quand même, il y avait quelques heures de battement, et fin d'après-midi jusqu'au soir, j'étais de nouveau dans mes études. Et il y a eu des semaines et des semaines et des semaines et des semaines sans jour de congé. Mais c'était pas juste. Et puis quand je me suis dit, cette fois, je prends un jour de sabbat, si j'arrive pas à le prendre de façon régulière, je me prends quand même un jour de sabbat hebdomadairement, ou alors deux demi-jours dans la semaine, mais je prends ça parce que c'est un principe de Dieu et c'est une façon de mettre ma confiance en Dieu qu'il va pourvoir. Et à chaque fois que je l'ai fait, ben, Dieu a pourvu. Mais c'est un combat. Parce que je vois la montagne qui est devant moi et c'est un immense combat. Mais c'est là qu'il faut dire, mais Seigneur, comment je fais? Ok, Seigneur, je m'arrête, mais renouvelle. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ok, Seigneur, donne-moi un bon sommeil. C'est des petites choses comme ça. C'est différent pour chacun. Mais essayez de vous dire, dans quoi est-ce que je me bats tout seul? Dans quoi est-ce que je m'épuise? Où est-ce que je perds mes forces? Et comment inviter le Seigneur là-dedans? Invitez le Seigneur dans vos situations. Développez votre communion avec le Saint-Esprit. Voyez, toutes les pièces du puzzle, elles s'accrochent toutes. Soyez en communion avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va vous dire comment faire. C'est lui qui va vous renouveler. C'est lui qui va vous aider de sortir de cette situation. Seigneur, merci. Merci pour la puissance de ta parole. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui nous ont précédées et qui ont des choses à nous apprendre. Merci pour David, un homme selon ton cœur qui était autant humain que nous, qui s'est trompé combien de fois, qui est descendu tellement bas, qui t'a tellement déçu. Et pourtant, tu l'as tellement relevé, tu l'as tellement honoré. Seigneur, on n'est pas meilleur que David, on n'est pas pire que David, mais on est simplement au bénéfice de ta grâce. Merci Seigneur pour cette source d'eau vive qui coule. Et pardon pour toutes les fois où on la laisse couler sans ouvrir la bouche pour être abreuvé. Seigneur, merci parce que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle. Tout est là, tout est à disposition. Mais parfois on ne trouve pas la clé pour ouvrir la porte. Parfois on ne trouve pas comment faire pour nous approcher de toi. Tu connais toutes les situations ce matin. Et je te prie, Père, de toucher les cœurs en Jésus-Christ par ton Saint-Esprit, que chacun puisse comprendre dans sa situation de quoi il s'agit, que chacun puisse comprendre comment faire pour te donner les rênes, pour te donner le contrôle. Je te demande, Saint-Esprit, de parler au cœur. Je te demande un esprit de révélation qui fasse connaître ta volonté à chaque personne qui a besoin de changer des choses. Je te demande de donner cet esprit, cette conviction, que ce soit de péché ou d'autres choses, qui amène à une repentance libératrice, un retour à toi, pour que tu puisses reprendre le contrôle de la situation, le contrôle des vies. Viens à notre secours, montre-nous comment tu déverses ta vie en nous. Montre-nous dans toutes les situations, dans nos relations, dans nos finances, dans notre santé, dans notre métier, dans nos défis, dans les choix que nous devons prendre. Seigneur, montre-nous à chacun. Où es-tu? Que veux-tu? Comment le faire? Merci parce que c'est toi qui pourvois. Ouvre nos yeux spirituels, fais tomber les écailles de nos yeux pour qu'on puisse voir comment tu agis et qu'on puisse voir ta fidélité, pas seulement la proclamer, mais y croire et la recevoir et la vivre et la voir se manifester jour après jour. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Gloire à toi Seigneur et merci de bénir tous mes frères et sœurs présents ce matin. Je te demande de les bénir encore, de renouveler encore ton Saint-Esprit sur chacun d'eux, en eux, de rafraîchir encore leurs pensées, de renouveler leur mentalité, de renouveler leur intelligence. Que chacun Seigneur reçoive une douche de ton Saint-Esprit, ton eau vive, qui les renouvelle, qui les restaure. Je te demande ce fleuve d'eau vive. Merci Seigneur, merci durant la semaine qui vient de travailler encore leur cœur et de leur donner de comprendre tout ce qu'ils doivent comprendre pour se reposer en toi. Merci Seigneur et gloire à ton nom puissant. Amen. Amen.